FM.
Morax dans la radio, tous les matins, entre 6h et 9h.
Et ce matin, comme promis, nous accueillons Dominique Bourg, bonjour. Merci d'être avec nous. Lucien Vimin également, bonjour.
Bonjour.
Dès lundi, 95 pays seront réunis à Paris pour décider d'un accord contraignant pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. On en parle ce matin avec nos invités. Simone.
Mais alors, on sait qu'une actualité en chasse une autre. On parle énormément de terrorisme en ce moment. Mais enfin bon, il y a ce rendez-vous dès lundi de la COP21.
On va qui est maintenu.
Exactement, qui est maintenu. Et donc je vais présenter rapidement nos invités. Dominique Bourg, je commence par vous. Vous êtes philosophe, mais vous êtes spécialisé dans l'environnement. Vous êtes professeur à la faculté de géosciences et de l'environnement à Lausanne. Et vous êtes directeur adjoint de l'Institut de géographie durabilité.
Je ne suis plus directeur adjoint.
Pardon.
C'est pas grave.
En tout cas, on vous a trouvé super quand vous étiez adjoint. Lucien Vimin, vous nous venez de la Chaux-de-Fonds, mais vous êtes un natif des Franches-Montagnes. Vous avez fait plusieurs métiers. Vous étiez dans les banques, vous étiez dans l'immobilier, vous étiez dans l'horlogerie. Puis à 40 ans, vous vous êtes dit stop, retraite, je me consacre à autre chose, l'environnement. Vous sensibilisez la population aux différents enjeux, dont les enjeux de l'énergie grise. Alors vous êtes un féru d'écologie, mais vous êtes formé sur le tas, j'ose dire. Et vous allez nous expliquer d'ailleurs tout de suite... C'est ça. D'abord, la COP21.
Oui, alors c'est quoi la COP21?
Est-ce qu'on peut expliquer clairement
ce que c'est la COP21?
Vous savez, conférence des parties. Donc, des parties, une convention cadre qui a été signée en 92 qui vise à stabiliser nos émissions pour ne pas transformer de façon dangereuse le climat. Bon, ça, c'est un peu râpé, je vous le dis tout de suite. C'est parti. Alors, le but de la conférence, c'est d'amener les différents pays sur un accord pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui perturbent le système climatique. Alors, vous avez dit tout à l'heure un accord contraignant. Non, c'est ce qu'on avait cherché à Copenhague, c'est ce qui a raté.
Donc là, pour
le moment, c'est les différents pays qui remettent avant la conférence, 175 l'ont déjà fait, qui remettent avant la conférence leurs engagements. Si on prend maintenant ces engagements, si on imagine qu'ils seront tenus, on est au moins, enfin on est disons vers les 3 degrés et non pas les 2 degrés, ce qui était la cible qui avait été acceptée à Copenhague. Voilà. Il y aura d'autres aspects probablement contraignants, mais pas sur cet objectif-là. Le Sénat américain, de toute façon, a dit non et d'autres ont dit non aussi.
Très brièvement, les engagements, ça peut être quoi? L'arrêt des centrales nucléaires, c'est quoi?
Non, le central nucléaire, alors on a bien des raisons de les arrêter, mais là, c'est le but, c'est de produire de l'énergie de la façon la moins carbonée possible.
Okay.
C'est-à-dire d'émettre le moins de gaz à effet de serre. Donc il y a pas que le CO2, il y a pas que le dioxyde de carbone, il y a le méthane, il y a le protoxyde d'azote, il y a les HFCFC, etc. Il y a d'autres gaz. Mais l'idée c'est on somme tout ça, on parle d'équivalent carbone et c'est de réduire ces émissions. Ces émissions, si vous voulez, elles changent la composition chimique de l'atmosphère et donc elles font que l'atmosphère va piéger plus de chaleur à la surface de la Terre. L'essentiel de cette chaleur part dans les océans. Une grande partie aussi, moins importante déjà, part dans les sols. Et une toute petite partie réchauffe, mais très sensiblement, l'atmosphère.
Alors, Lucien Vimin, vous, un des thèmes que vous traitez, c'est l'énergie grise. C'est un thème qui est peu traité par les médias. Vous dites, alors expliquez-nous en quelques mots, c'est quoi l'énergie grise?
En fait, l'énergie grise, c'est toute l'énergie dont on a besoin pour fabriquer un objet. Tout objet a nécessité de l'énergie pour être fabriqué. Je prends la tasse de café que vous avez à côté de vous. Cette tasse a l'air de ne pas polluer ici. Effectivement, elle n'émet rien. Mais par contre, pour la fabriquer, elle a eu besoin d'énergie. Et beaucoup plus que ce qu'on a l'impression que ce qu'on imagine parfois.
Et ça, ce thème-là est abordé de manière détournée par la COP21, ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Oui, alors justement, l'idée c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos programmes politiques, on ne tient pas du tout compte de l'énergie grise. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrifiant, parce que l'énergie grise, c'est l'une des grandes parts d'énergie consommée sur cette planète. Ce qui se passe, j'explique, je veux bien donner 3 dimensions pour qu'on soit bien compris par les auditeurs. Il y a une première dimension qui est l'énergie consommée ici en Suisse, sous sol helvétique, et c'est là-dessus que ça représente toute l'architecture de nos programmes politiques en fait. C'est là-dessus qu'on va se baser pour déterminer qu'est-ce qu'on va demander à la population, quel agissement on va demander à la population et à nos entreprises et à l'industrie. Et on voit, on nous propose de changer de voiture pour jeter moins de CO2 ici, on nous propose de changer de machine à café, d'électroménager pour consommer moins d'électricité ici. Mais ceci, c'est faire fi, en fait, de toute l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer cet objet ailleurs, de l'autre côté de la planète. Donc, c'est réducteur au possible. Ensuite, on a une deuxième dimension, qui est cette fois-ci l'énergie grise. Cette dimension dont on vient de parler, qui n'est pas du tout prise en compte par nos gouvernements, qui veut dire qu'on essaie de faire propre ici, sous notre ciel helvétique, et on s'occupe pas du tout de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Mais en fait, c'est assez réducteur du fait que nous faisons tous partie de cette planète. Donc ce qui se passe de l'autre côté de la planète, notamment en Chine, en Inde, pour fabriquer nos objets, eh ben, ça nous concerne de très près finalement, même si c'est très loin de nous.
Donc il faut consommer moins, c'est ça que vous dites.
Ben, écoutez, on devra y passer, un jour ou l'autre, oui. Surtout que ça, c'est qu'une question de l'énergie. Et c'est ça, le thème de l'écologie aujourd'hui est souvent réduit à une question de dépenses énergétiques pour éviter des rejets CO2. Mais ça, c'est qu'un élément. Et il y a une troisième dimension qui devrait être prise en compte, et celle-ci, elle nous permet de vraiment... Je dis pratiquement la messe, c'est pratiquement dite. C'est-à-dire que c'est la dimension de la pollution chimique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on veut fabriquer un objet, on a besoin d'une filière chimique, certaines fois imposante. La tasse dont on parlait tout à l'heure a eu besoin de chimie pour être fabriquée également.
Et ça, ça va dans l'air, ça va dans les sols.
Exactement, dans l'air, les sols et dans l'eau. Et cette pollution chimique-là, c'est des substances toxiques qui sont envoyées dans la nature, et des substances toxiques qui sont vraiment négatives pour le vivant, et en fait qui tuent la vie. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, pour lutter contre, j'aime pas trop dire lutter contre, mais en tout cas c'est ce qui est souvent utilisé comme terme, pour éviter qu'on rejette trop de CO2 dans l'atmosphère, on va nous inviter à changer régulièrement d'objets. Ce qui veut dire qu'on fabrique de plus en plus d'objets. Chaque année, nous augmentons la quantité d'objets sur la planète. Plus de voitures, plus de véhicules, plus d'électronique, plus d'électroménagers, plus de routes, plus d'immeubles. Et chaque année, nous mettons plus d'objets sur le marché, donc qui consomment moins, certes, mais comme leur nombre augmente, eh ben, globalement, la consommation d'énergie augmente. D'autant plus qu'il faut d'abord les fabriquer.
Alors c'est un peu le chien qui se mord la queue. Dominique Bourboulier.
Oui, un petit complément, juste un chiffre. Si vous prenez effectivement, si vous mesurez simplement la consommation directe d'énergie sur un territoire, c'est-à-dire celle qu'on va utiliser pour produire de l'électricité, celle qu'on va utiliser pour se déplacer, celle qu'on va utiliser pour se chauffer, la Suisse est un pays assez exemplaire. C'est-à-dire qu'on est à 6 tonnes par an par personne. Si vous ajoutez l'énergie grise dont parle Lucien, vous êtes à 18 tonnes par personne. Donc ça ne veut pas dire que la COP la prend pas en charge, mais simplement elle reporte l'effort sur les pays émergents producteurs. Parce que c'est à eux qu'on va imputer les 13 tonnes restantes. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est une certaine forme, si vous voulez, d'injustice. Et puis maintenant, prenez par exemple simplement l'exploitation minière au monde, c'est 10% de l'énergie primaire que nous produisons et consommant. Et plus on va aller pour produire les objets dont parle Lucien, parce qu'on a tout ratiboisé, grosso modo, jusqu'à 100 mètres sous le sol. Par exemple, vous prenez le potassium pour les engrais, vous allez le chercher maintenant entre 600 et 1200 mètres. Vous imaginez le coût énergétique et le coût aussi de pollution. Donc effectivement, ça c'est un enjeu très fort. Mais d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on commence à arriver au taquet. Sur certains.
J'abonde dans ce que dit Dominique, effectivement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus de ça, avant d'arriver à 1200 mètres de profondeur pour les trous, pour aller chercher du cuivre, par exemple, donc j'habite la Chaux-de-Fonds, je suis à 1000 mètres d'altitude, si je faisais un trou de la Chaux-de-Fonds jusqu'à la mer, il me manquerait 200 mètres. Alors imaginez-vous ce que ça veut dire, pour vraiment bien se prendre conscience de ce que ça veut dire, ces chiffres-là. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'avant de pouvoir creuser, au-dessus, il y avait souvent des forêts primaires, qui sont une partie du poumon de notre planète. Qui nous crée l'oxygène. C'est des forêts primaires qui captent aussi du CO2, qui mangent du CO2 et qui nous donnent de l'oxygène. Et ben, ce qu'on a, avant d'aller creuser, on va d'abord éradiquer ces forêts. C'est-à-dire qu'on éradique la vie avant de commencer à creuser. Donc, plus les trous sont grands, plus les territoires sont vastes, plus nous consommons, plus nous avons besoin de trous plus importants en profondeur, mais aussi en surface. Donc, plus en surface, on éradique la vie, c'est-à-dire les forêts, mais aussi toute la vie animale, toute la faune, et voilà, et tous les écosystèmes reprennent un sacré coup, quoi.
On va faire une petite pause et parler justement des effets concrets déjà du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui?
Et on en parle avec nos invités ce matin, Dominique Bourg et Lucien Wimin. Et notre sondage, toujours en ligne, on vous invite à réagir. On va tester un petit peu votre sensibilité, justement, en rapport avec le sujet. Les changements climatiques, c'est inévitable, c'est utopique, c'est alarmant. Votre avis nous intéresse sur le site lfm.ch.